mai au canton oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est quelque chose de combattu au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Le 10 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu pour cette célébration est « Droits de l'homme, 365 jours sur 365 ». Selon vous, que faut-il faire pour que la RDC capitalise quelques progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des partenaires pour le respect des droits de l'homme à travers le pays? pa@radiocapi.net, c'est notre adresse électronique pour vos analyses et commentaires sur cette thématique. Vous aurez également la possibilité de participer à ces débats citoyens en direct. Donc appelez-nous au 081-890-63-15. Toute équipe est là. Pour vous tenir compagnie, Héritier Sidiakala est à la technique. Faisa Julie Bongonda et Thierry Lamegi sont à la réalisation de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Nguembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio notre invité, Maître Henri Ouimboloa, qui est le responsable, en fait le coordonnateur des activités de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Maître Henri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, d'entrée des jeux, quelle est la situation des droits de l'homme à ces jours en RDC?
Oui, d'entrée des jeux, la situation des droits de l'homme en RDC est... Donc, il y a une lecture tout à fait mitigée, et un peu plus critique. Il y a des violations des droits de l'homme flagrantes et il y a aussi quelques points positifs, quelques efforts que l'on peut reconnaître, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement. Là, je veux dire, lorsque nous prenons par exemple la situation des libertés civiques et politiques, là c'est encore un problème sérieux. Et là, quand même, il y a une certaine abstinence de l'État qui laisse quand même les gens jouir par moment des libertés de manifestation. Il y a eu quelques manifestations publiques acceptées. Mais sur le plan des droits économiques, sociaux et culturels, là encore, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que vous entendrez la population aujourd'hui qui ne fait que réclamer. Nous n'avons pas d'énergie électrique, question de l'eau, les salaires, et l'emploi, et l'éducation. Voilà un peu la situation. Mais il faut aussi connaître une chose, c'est qu'il y a la paix. La paix, c'est quelques efforts qui ont été fournis parce que, dans une certaine mesure, à l'est du pays, il y a des efforts qui ont pu mettre en débandade les M23. Ça réjouit un peu, mais il faut encore plus stabiliser la paix sur toute l'étendue de la République.
Alors, quels sont les actes de violation des droits de l'homme qui ont caractérisé l'année 2014 comparativement aux années passées?
Oui, d'abord, ce qui est principal, ce qui saute aux yeux, ce sont les cas des violences sexuelles. Là, c'était d'abord le fait de la guerre, mais après, on a compris que ce n'était pas seulement un problème de la guerre. Et dans d'autres coins du pays, on connaissait des cas de violences sexuelles. Et il y a aussi, ici à Kinshasa, on a parlé de la situation opération Oligofi. Là aussi, c'est un événement qui a marqué beaucoup les esprits pendant cette année. Donc, et ce sont les cas les plus récurrents que l'on a constatés. Et les auteurs, c'est souvent les éléments de la police, les éléments des FARDC et les groupes, les miliciens, les groupes armés de l'autre côté.
Voilà, mais parce que vous parlez de l'opération Likofi, c'est vrai, nous avons vu des ONG monter au créneau pour d'abord saluer à l'époque cette action menée par le gouvernement congolais. Mais ce qui a étonné plus d'un, le rapport qui en fait, les rapports qui est sorti de cette opération publié par les différents observateurs, notamment des partenaires, et ce rapport a été pas accepté facilement par les autorités.
Oui, les rapports n'ont pas été acceptés facilement. Là aussi, nous pouvons dire que c'est une erreur de la part du gouvernement, parce que On peut dire on n'a pas accepté, mais en réalité, on a accepté parce que le ministre de l'Intérieur, M. Richard Mouyel,
le ministre honoraire,
oui, il est passé au Parlement, il a dit clairement qu'il y a eu quelques
dérapages.
Et dans ce dérapage, lorsque vous entrez dans les détails, ce sont des grincements des dents, et ce sont des problèmes dans des familles. Donc, au départ, les gens se sont dit il y a le cas de la criminalité qui accroît, il faut des solutions. Et c'est à ce niveau-là que la population a cru que tout ce que le gouvernement peut faire pour neutraliser les criminels, ça va. Mais, d'autre part, les gens ont fini par comprendre aussi que non, le gouvernement a toute la force publique pour intervenir en amont et en aval. C'est-à-dire qu'il peut même éviter ce genre de phénomène. Lorsque les institutions de l'État fonctionnent normalement, on n'a pas besoin d'une opération Likofi. C'est lorsque les institutions n'ont pas bien fonctionné et qu'il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, alors on cherche d'autres solutions pour essayer de mater. Mais alors mater, comment doit-on mater? Malheureusement, il y a aussi des éléments des pharmacies ou de la police qui ont leurs intérêts propres. Et ce sont ceux-là qui ont dérapé, ils ont tué. Ça, les gens ont vu. Et c'est un peu ça le problème.
Alors, tous sont d'accord que la situation des droits de l'homme en RDC s'est gravement détériorée suite à ce continuum d'insécurité enregistré dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 1996, si les calculs sont bons. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit, selon tous, des cas de violations graves des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires, dont les atteintes au droit à la vie, des atteintes au droit à l'intégrité physique, y compris des violences sexuelles, d'ailleurs vous l'avez dit, etc. etc. Alors, les ONG des droits de l'homme, pour ne pas minimiser le travail que vous êtes en train de faire, ne font que dénoncer, mais les sanctions ne suivent pas.
Oui, les ONG sont là pour dénoncer. D'abord, il faut dire que les ONG ne sont pas les ennemis du gouvernement. Les ONG sont des partenaires du gouvernement. Vous prenez la Constitution, l'article 37 qui parle, n'est-ce pas, de partenariat entre le pouvoir public et la société civile. Vous prenez autant d'articles de l'article 11 à l'article 62 de notre Constitution, on ne parle que des droits de l'homme. C'est ce qui signifie que les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme doit être pris en compte par le gouvernement dans la gestion. Alors, quand nous disons que les défenseurs des droits de l'homme dénoncent et ils publient les rapports, le gouvernement est appelé quand même à récupérer ces rapports et pour voir dans la profondeur comment on peut éviter pareille situation à la prochaine. Et c'est ce qui est par moments déploré. On va condamner, on va faire publier les rapports, on va critiquer, mais par moments, lorsqu'il n'y a pas de poursuite exemplaire, les gens se disent, mais est-ce que le gouvernement ne tolère pas cela? C'est ça le problème. Mais il y a eu effectivement beaucoup de cas de violations des droits de l'homme à l'Est, comme vous le dites, les groupes armés, et même certains des éléments de FARDC, il y en a qui ont détourné des fonds.
Qui sont vraiment cités dans certains rapports.
Oui, il y en a qui ont détourné des fonds qui étaient destinés à nos vaillants militaires, les compatriotes qui ont fait du travail. Là, il faut les saluer vraiment, il faut les encourager.
Il faut bien courir les rues, les ablanchir.
Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est ce qui fait un peu mal. Parce que ce que nous voulons, en tant que défenseurs des droits de l'homme, quand il y a des rapports, que le gouvernement prenne ce rapport et qu'il puisse
analyser,
mener des enquêtes et sanctionner les responsables. Et là, nous disons que le gouvernement a fait son travail.
Voilà, merci beaucoup Henri Wemboloa. Vous êtes responsable des activités de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Vous êtes notre invité, nous vous gardons encore dans ces studios. Nous allons repasser de l'autre côté des standards pour ouvrir les standards afin d'accueillir les auditeurs qui vont participer à ces débats, mais tout en vous rappelant nos numéros de contact et aussi les moyens de contact, donc les 081-890-6315 ou encore pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons Papy qui est à Kinshasa. Papy, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour, c'est à l'invité.
Voilà, Papy, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Par rapport à la situation du respect des droits de l'homme au Congo, cela est mitigé parce que, comme vient de le dire l'invité, il y a beaucoup de problèmes qui se posent encore en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire, si vous lisez notre constitution, vous allez vous rendre compte que les titres relatifs aux droits de l'homme est au commencement de la constitution. Donc, s'il faut faire une analyse objective, vous rendrez compte que l'organe constituant a voulu que ce titre-là soit au début de la Constitution pour que la suite de la Constitution soit faite au respect des droits de l'homme. Mais moi, je vois que cela est vraiment théorique parce que quand on parle des droits de l'homme, on voit que c'est autour des niveaux. Nous avons les droits civils et politiques ainsi que les droits culturels, économiques et sociaux. Mais par rapport aux droits civils et politiques, comme je viens de le dire, il y a des petits progrès. Mais quant au second, à la seconde catégorie des droits de l'homme, nous savons que rien ne marche jusque-là. Moi, personnellement, je demanderai à l'État congolais de pouvoir prendre les choses au sérieux par rapport à ces respects des droits de l'homme. Parce que vous savez, M. J.R., qu'en matière des droits de l'homme, l'État a une triple obligation. Premièrement, l'obligation de respecter les droits de l'homme, l'obligation de protéger et de réaliser les droits de l'homme. Donc, l'État ne peut pas se limiter au respect ou à la protection, mais aussi, il doit faire de sorte que ces droits-là soient réalisés. Je ne saurais pas de constituer tous les points qui constituent le respect des droits de l'homme, mais d'une manière brève, je dirais seulement que l'État doit prendre ces choses au sérieux. Alors, je veux aussi appeler les...
Oui, rapidement, papy, rapidement, papy.
De la communauté internationale ainsi que des Nations Unies. Parce que l'État congolais est l'un des membres des Nations Unies. Alors, étant donné qu'elle a l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l'homme, la communauté internationale ainsi que les Nations Unies doivent faire de sorte que tous ces droits-là soient respectés. Et surtout qu'en matière des droits de l'homme, les principes de non-ingérence ne posent pas problème. Parce que si ces droits de l'homme sont violés, la communauté internationale ainsi que les Nations Unies doivent intervenir pour que les droits de l'homme soient respectés dans tous les pays, en particulier la RDC. Je veux aussi évoquer les problèmes de textes de loi. Parce qu'en matière des œuvres législatives, personne n'ignore qu'il y a un grand progrès dans notre pays. Mais c'est leur applicabilité qui pose problème. Vous savez comme nous que le Parlement a voté beaucoup de lois. Mais ces lois-là ne sont pas du tout appliquées. Donc, je demanderai au gouvernement, au Parlement, premièrement, d'interpeller le gouvernement doit faire de sorte que les droits de l'homme soient respectés. En passant aussi, je vais dénoncer le bombe de Brazzaville. La communauté internationale, je l'ai dit, doit intervenir à tout moment qu'il y a violation des droits de l'homme. Moi, j'ai vu une certaine indifférence, soit une certaine passivité à l'égard de la part de la communauté internationale par rapport à l'exclusion massive des non-concitoyens à Congo-Brazzaville, alors que cela constituait déjà un motif de l'ingérence des Nations Unies sur le Congo-Brazzaville. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Papy. C'est vrai, vous avez évoqué plusieurs choses à la fois, et ce qui nous renvoie même à redouter en fait la solution immédiate quant à cette complexité de la problématique de la question sur des violations des droits de l'homme, vu en tout cas au regard de budget qui n'est pas très consistant pour résoudre en tout cas tous ces problèmes que vous avez évoqués à Brazzaville, ici avec la sécurité à l'Est, les cas avec les incivismes, les cas d'incivisme avec les jeunes Kouluna et tant d'autres. Donc voilà, donc toute cette complexité est un problème, des questions transversales qui nécessitent aussi des solutions globales et de surcroît qui nécessitent aussi également des moyens. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre Clovis qui est à mon édition. Merci Papy Kassima d'avoir appelé de Kinshasa. Clovis, vous êtes à mon édition. Bonjour.
Bonjour JR et bonjour à M. Angus et bonjour à tous les amis de la radio Okapi.
Alors selon vous, Clovis, que faut-il faire pour que la RDC aujourd'hui capitalise quelques progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des partenaires pour le respect des droits de l'homme? Notre invité l'a dit, nous avons en fait enregistré quelques avancées, notamment quand il y a l'organisation des marches dans notre pays. On sent qu'il y a certaines marches qui sont aujourd'hui tolérées et encadrées par la police.
Oui, bien sûr, et pour capitaliser tout cela, il faut tout d'abord passer par le respect des textes ou des clauses qui sont contenus vraiment dans les droits de l'homme. Et d'abord, notre constitution est claire là-dessus. Mon prédécesseur l'a déjà évoqué aussi, l'invité, je l'ai suivi quand je parlais. Je pense que l'État congolais doit collaborer avec les ONG qui appuient vraiment les droits de l'homme. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'État congolais aussi ne tient pas compte de ce que les ONG publient comme rapport. On trouve qu'il y a eu un problème entre le rapport qui a été publié par le bureau de la MONUSCO et aussi Human Rights Watch à Kinshasa par rapport au système de l'UCOFI. Donc, il fallait tout d'abord mener les démarches, les enquêtes, voir est-ce que réellement ces gens-là avaient commis aussi ou la police avait commis aussi les dérapages. À ce niveau-là, je pense qu'on va quand même développer et aussi respecter les droits de l'homme. Et de l'autre côté aussi, je pense qu'il faut chercher aussi à voir est-ce que réellement les institutions habilitées à punir les bourreaux qui contraignent vraiment les activistes des droits de l'homme. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a des kidnappings, on trouve qu'on tue les gens qui militent quand même pour les droits de l'homme. Est-ce que ces gens-là sont punis? On voit certains pays qui limitent, et qui séparent notre pays. Si, par exemple, il y a un problème du Congo-Brazza, on l'a évoqué ici. Nous avons vu comment des Congolais ont été expulsés du Congo-Brazza. Est-ce que c'était vraiment dans le respect des droits de l'homme? À ce niveau-là, je pense que les dirigeants congolais doivent aussi collaborer plutôt avec les ONG, pas les considérer comme les ennemis, et chercher aussi à faire respecter toutes les clauses qui sont contenues dans la déclaration des droits de l'homme et surtout dans notre constitution qui est claire, puisque pour les droits de l'homme, notre constitution est très claire là-bas. Donc l'État congolais ne doit pas seulement livrer et donner beaucoup de textes, mais on trouve que l'applicabilité de ces textes-là reste encore naïve. Donc je pense qu'on doit tout d'abord passer à l'applicabilité, chercher à punir les bourreaux et chercher aussi à soutenir les activistes des droits de l'homme et à les soutenir financièrement, à les soutenir aussi à aller très avant. Et le rapport qu'on donne par exemple à les ONG, chercher à mener les enquêtes. Pas dire seulement, c'est prononcé une fois, non, le rapport n'est pas bon, ça c'est un rapport diabolique, je ne sais pas moi dire non. Sinon, il faut essayer d'amener les enquêtes, savoir si réellement le rapport était bon.
Il
faut les punir conformément à la loi pour que les droits de l'homme soient
respectés dans notre pays. Merci beaucoup Clovis. Pour vous, aujourd'hui, les activistes des droits de l'homme et l'État congolais se regardent en chef de faïence. Alors pour éviter cela, il faudrait réellement que les deux parties puissent réellement s'impliquer et pour travailler et avoir le résultat, hein, celui de pouvoir respecter le droit de l'homme. Cela pourrait amener à capitaliser, au fait, les progrès déjà réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des partenaires pour le respect de ces droits. Donc, merci beaucoup, hein, Clovis. Franck, vous êtes en Vienne, en Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et aux amis avec qui nous échangeons.
Est-ce que vous partagez l'avis de Clovis qui parlait tout à l'heure? Il faudrait que l'État congolais et ainsi que les activistes des droits de l'homme puissent sortir un peu de ces regards. Hein. Ils se regardent comme un chien de faïence, ce qui empêche parfois de capitaliser ces progrès déjà réalisés, quelques avancées réalisées autour du respect des droits de l'homme.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui parce que nous devons aussi d'abord rappeler que le respect des droits de l'homme a une genèse sociale et historique. On est parti de l'existence de certaines inégalités sociales et de certains traitements indignes pour concevoir ce cadre juridique au sein duquel le droit de chacun doit être respecté ou le droit de chacun est à respecter. Si je souffre ce parle, le respect des droits de l'homme et de ce fait un état d'esprit qu'on peut acquérir pour un état d'esprit qui s'apprend à travers les processus éducatifs de la base familiale, à travers l'instruction dans des milieux de formation scolaire, à travers des partages citoyens au sein de la société, dans des milieux professionnels, et ainsi de suite. Et il ne peut être atteint que s'il y a une pratique, l'admission de la tolérance ou l'admission d'autres sons de cloche de le maître. Donc, jusqu'à ce niveau-là, c'est comme l'invité venait de le dire, il y a des efforts qui se font, il y a quelque chose qui progresse, mais nous avons encore du chemin à faire, quoi, parce que quand on dit qu'on admet des marches, on fait ceci, c'est très bien, mais parfois nous savons aussi qu'il y a des journalistes, vos journalistes, vous êtes parfois victimes de ce que nous sommes en train de dénoncer ici, ou bien certains leaders d'opinion. Donc, dans un pays, on ne laisse pas à chacun le temps de bien penser. Donc, on ne touche quand même la liberté d'expression des autres. Quoi. Donc, en reconnaissant tous ces efforts, nous devons aussi dire qu'il y a des groupes d'individus qui n'ont pas encore atteint cet état d'esprit d'admettre d'autres sons de cloche que les leurs. Il y a des individus, des dirigeants au sein de certaines structures étatiques ou bien au sein de certains pouvoirs qui ne veulent pas voir les gens raisonner, qui ne veulent pas les voir les gens dire autre chose que ce qui est attendu. Avant-hier, vous êtes là à Kinshasa, il y a un de vos collègues journalistes qui a été agressé. Peut-être pour des raisons pédagogiques et déontologiques, vous ne voulez pas qu'on cite le nom ici, mais quand on voit un peu les circonstances dans le
monde. Il faudrait aussi nuancer quand vous parlez de l'agression. Alors,
oui, d'après la vidéo qu'on a postée, oui, je dis d'après celle qu'on est en train de retracer le récit. On trouve qu'il a été agressé parce qu'il était en train de rouler, puis l'incident est arrivé et comment on l'a traité. Est-ce que dans de telles circonstances, c'est comme ça qu'on doit traiter quelqu'un? Je crois que même s'il y a eu un problème, il y a aussi une manière de chercher à le régler. Donc on n'est pas ici pour prendre position pour nous condamner, mais nous voulons que le respect des droits de l'homme puisse être respecté. Et quand on parle du respect des droits de l'homme, il faut que ça soit vraiment équilibré de A à Z. Et quand il y a par exemple des insécurités dans certains coins du pays, nous savons qu'il y a nos compatriotes qu'on va tuer à base de machettes. Nous savons qu'il y a des compatriotes dont des salaires sont détournés. Nous savons qu'il y a des compatriotes dont les droits fondamentaux ne sont plus respectés. À ce niveau-là, on peut parler de l'existence des droits de l'homme à plusieurs vitesses. Et je crois qu'ici, ce n'est pas question de faire des complaisances. Nous objectons à base de ce que nous constatons. Il y a des efforts qui sont manifestes, on les reconnaît, mais nous avons encore du chemin à faire. Donc, de ce côté-là, comme je le dis, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, c'est un état d'esprit. Nous devons militer pour que cela devienne une culture avec des réflexes conformes à la dignité de tout homme. Sinon, ça serait un droit de l'homme à plusieurs vitesses. Le matin, on respecte. L'après-midi, on agresse, le matin, on respecte juste ça. Là, on peut difficilement parler de l'existence des droits de l'homme qui est maintenu sur toute l'étendue du pays.
Voilà, merci beaucoup pour vous, Franck. Le respect des droits de l'homme, c'est un état d'esprit. Il faut inculquer cette culture, en commençant par l'école primaire, secondaire, pourquoi pas l'universitaire, pour ainsi éviter de tomber dans le respect des droits de l'homme à deux vitesses. Le matin, on dit une chose, et le soir, c'est le contraire. Vous avez évoqué les cas d'un journaliste qui s'est fait agresser, et aujourd'hui, c'est vrai, pour, au fait, la suprématie sur sur quelqu'un ou un journaliste qui a traité objectivement son information. Il y a certaines autorités, selon vos propos, qui utilisent en tout cas leur promotion sociale pour traquer et pour, en fait, travailler dans le sens du non-respect des droits de l'homme. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Pierre. Laissez-moi d'abord vous adresser mes salutations, mais aussi mes vœux les meilleurs pour l'équipe de la Radio Capi, et aussi donner mes vœux les meilleurs pour tous les peuples congolais, et en particulier le peuple de l'Ituri qui m'écoute à ce moment, pendant que j'ai fait une année d'absence sur la chaîne Radio Capi par aux auditeurs.
Merci beaucoup, Sylvain. Nous l'enregistrons et nous l'apprécions. Merci.
Alors, s'agissant de la question de l'heure du jour, soyez rassurés que j'ai pris de mon temps pour apprécier l'importance que la Radio Capi, à travers son émission par auditeur, accorde à cette thématique. Vous savez, j'ai suivi l'invité comme les autres, parler, développer de même façon la question sur les droits de l'homme, les droits humains. Mais j'ai moi vous dire une seule chose, c'est que lorsque les Nations Unies ont décidé qu'il y ait une journée à la date du 10 décembre, pour qu'on essaie d'évaluer chaque fois comment les institutions nationales et internationales essayent de s'efforcer pour qu'on arrive à respecter les droits humains, je pense que c'était pour une raison très importante. Mais aujourd'hui, cette émission me donne une occasion pour ici dresser un bilan à ce qui concerne cette histoire-là. Mais est-ce que le Congo, puisque là il s'agit du Congo, est-ce que le Congo a inculqué dans sa constitution les règles relatives au respect des droits humains? Je dis oui, nous la constitution à partir de l'article 11 jusqu'à la fin, on n'est pas le fait du respect des droits humains. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Donc, M. Gers, je suis ici tenté de dire que, d'une manière ou d'une autre, c'est que la République démocratique du Congo, bien qu'elle a amendé son texte constitutionnel, n'est-ce pas, le texte Gers maintenant, par rapport aux normes internationales des gouvernements de l'État, par rapport à la vision de la mondialisation de la globalisation, mais la pratique politique s'est écartée d'une manière cardinale au respect des valeurs humaines. Et donc, l'invité qui est sur le plateau, qui dit qu'aujourd'hui les ONG sont vues en ennemi avec le gouvernement quand on parle de questions des droits humains, je dis que c'est une question de la culture, c'est une question de la sociologie, c'est une question fondamentale liée à l'aspiration de la valeur humaine. Et donc, je me dis que les acteurs qui défendent les droits humains ne sont pas seulement des ONG des droits humains, mais pas seulement les gouvernements. Nous avons les journalistes, nous avons les églises, nous avons les universités. Mais que j'ai laissé-moi vous dire une chose. En 2012, quand nous étions au Kenya, dans un colloque, nous avons débattu autour du thème comment peut-on faire respecter les droits humains à commencer par la nourriture. Est-ce que les Congolais mangent? Est-ce que les Congolais se font soigner pendant que tout cela est inscrit dans la Constitution? Est-ce que les Congolais ont un transport commun? Est-ce que les Congolais ont droit à une
accès à l'éducation
de qualité? Est-ce que nous avons accès à des soins de santé? Voilà des questions qui
englobent
la question des droits humains.
Mmh. Voilà. Alors,
Oui.
Allez-y, Sylvain.
Oui, je dis ceci. Je vais terminer par dire que de 1960 à nos jours, nous avons eu des personnes qui se sont écartées de la question de la valeur cardinale de l'homme. Nous avons quitté la sociologie congolaise pour nous comporter à des divorcés des valeurs positives de la société. Donc moi, j'appelle le gouvernement congolais d'abord. Si d'ailleurs, quand vous lisez la Constitution du Congo, celle qui est en train de faire un débat aujourd'hui, revoir ou ne pas revoir, on a incorporé toutes les valeurs de respect des droits humains dans la Constitution. Les institutions habilitées à les appliquer, telles les gouvernements, telles l'Assemblée nationale qui doit légiférer sur des questions, telles les cours de tribunaux qui doivent lire les droits. Est-ce que ils sont dotés des capacités à faire respecter ces droits?
Donc, merci beaucoup, Sylvain.
J'insiste.
Allez-y rapidement.
L'invité qui est avec nous, l'invité qui est avec nous, et le peuple congolais aujourd'hui, nous devons nous lier comme tous acteurs pour défendre les droits humains. Mmh. Voilà ma position, monsieur.
Merci beaucoup, Sylvain. Vous pensez qu'on peut arriver à faire respecter les droits de l'homme en République démocratique du Congo dès lors que la Constitution ou l'organe constituant donne déjà plus de 50 articles dans la Constitution qui ne parlent que des droits de l'homme sur les 250 ou encore 300 que nous avons. Ça pourrait, ne puisque si on est très regardant et très par rapport au texte que nous avons nous-mêmes voté, adhéré. Donc je crois que ça pourrait donner les résultats selon vous, donc pour éviter, parce que de 60 à nos jours, vous l'avez dit, nous avons quitté la socialisation congolaise pour embrasser des antivaleurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde protège ses propres intérêts, et surtout quand on a une portion de pouvoir, on est au-dessus. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé de Bounia. Magonia, vous êtes à Guémena. Bonjour. Magonia, vous êtes avec nous à l'Équateur. Bonjour. On prend plutôt Patrick qui est à Lubumbashi. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Patrick, nous avons suivi notre invité ainsi que vos prédécesseurs qui ont parlé de quelques avancées aussi observées dans le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour capitaliser de ces quelques progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des partenaires pour le respect de ces droits?
Oui, dire qu'il n'y a pas d'avancée des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est mentir. Hein. Je suis d'accord avec ceux-là qui avance l'idée selon laquelle il y a des avancées majeures. Encore, il y a encore plusieurs efforts qui doivent être déployés, surtout dans le chef des agents de services de sécurité de notre pays. Je vais citer l'exemple d'ici au Katanga. Au Katanga, ici à Lubumbashi, il y a trois catégories de services qui tracassent un peu la population. Je vais y aller par les agents de services non apparents, dont je ne veux pas citer le nom du service. Lorsque vous vous retrouvez dans les mains des agents dits de l'ANR, en tout cas, ces frères, ces gens font tout sauf rien. Et lorsque les gens vous arrêtent, vous n'avez nulle part où vous pouvez aller vous plaindre. Et j'aimerais aussi dénoncer la façon dont les agents de la police, la protection de la femme et de l'enfant sont en train de travailler. Ces gens travaillent en toute impunité, dans la perspective où ils peuvent vous arrêter, et commettre des exactions par rapport aux présumés innocents. Et il y a aussi des gens d'un parti politique ici qu'on connaît, hein, l'UNAFEC, qui ne sont pas des policiers, ne sont pas dans l'armée, mais à Lubumbashi, ils sont en train de travailler en toute impunité, arrêter des gens, surtout les femmes qui travaillent, qu'on appelle les marchés pirates. Donc je crois que sur toutes ces avancées dont nos prédécesseurs ont parlé, il serait mieux que l'autorité jette aussi un œil sur ces services qui sont en train de sévir ici à Lubumbashi et au Katanga en général. Voilà ma contribution.
Voilà, merci beaucoup Patrick d'avoir appelé. Voilà, vous avez posé le problème des ponts en ce qui concerne les services de sécurité qui sont censés protéger les personnes et leurs biens. Et comme vous l'avez évoqué, l'ANR qui constitue quand même l'intelligentsia de la République démocratique du Congo. Vous déplorez la manière dont ces derniers ou certains de ces agents appliquent la loi avec parfois des arrestations arbitraires ou encore dans des conditions inhumaines. Vous avez des agents qui débarquent par exemple la nuit à 18h, à 20h, au-delà des heures de service pour arrêter quelqu'un, pour au fait mapper ou encore sans même l'autorisation de procureur. Et il y a la police qui en fait n'arrive pas aussi à travailler comme il faut en ce qui concerne le respect des textes par rapport à la protection de l'enfant et à la protection des vulnérables. Merci beaucoup Patrick. 081-893-15 pour votre intervention.
Okapi Danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'ici tout d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi Danse, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons, parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Nous avons dans ce studio Maître Henri Wemboloa, qui vient de suivre d'ailleurs cette série des auditeurs. Il y a une préoccupation très, très, très fondamentale quand Patrick évoque l'aspect des privilèges dont jouissent certains agents de l'ANR. Aujourd'hui, c'est vrai, la loi n'a pas modifié certaines dispositions qui, en fait, octroient ces privilèges à ces agents. Aujourd'hui, pour accuser, par exemple, quelqu'un ou un agent de l'ANR qui a dérapé, il faut l'autorisation de sa hiérarchie qui doit, au fait, mener des démarches pour tentative. Alors, est-ce qu'au niveau de ces privilèges, vous ne pensez pas que c'est un trait quand même au respect des droits de l'homme?
Oui, c'est vraiment une analyse pertinente. Il faut retenir qu'il y a des éléments qui entravent, qui obstruent, n'est-ce pas, la réalisation des droits de l'homme. C'est notamment les immunités, les privilèges dont on parle, il y a la question de l'impunité et même la question de la corruption. Ce sont des fléaux graves qui contrecarrent, n'est-ce pas, la direction des droits de l'homme. Et il faut lutter sur cela par rapport à la loi, la législation, elle est importante. Il faut féliciter une chose aujourd'hui dans notre pays. Nous avons beaucoup de lois. Nous avons une bonne constitution.
Un arsenal juridique est très, 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 très utile.
Nous avons une bonne constitution par rapport aux questions des droits de l'homme. Il n'y a pas à toucher à
retoucher. De l'article 11 à 62, il y a 50 articles.
Il n'y a pas à toucher à retoucher par rapport aux droits de l'homme dans cette constitution. Mais il y a encore plus fort. Il y a aussi
premier article verrouillé dans la Constitution. Il y a les droits de l'homme intangibles. Là, c'est l'article 61. Et toucher à cela, c'est-à-dire qu'on remet encore le pays il y a 20 ans, 30 ans. Et ici, nous voulons dire une chose. La réalité dans notre pays, c'est que il y a de ces autorités qui sont favorables au respect de la dignité de toute autre personne. Mais il y a par contre d'autres qui ne voient que leurs intérêts, qui ne voient que leur propre dignité, comment avoir de l'argent et tout ça. Et tout est permis sur la personne humaine. C'est ça que nous disons, il faut vraiment tirer attention aux violations des droits de l'homme. Et les violations des droits de l'homme ici, c'est quoi? Ce sont les actes, ce sont les comportements, ce sont les actions qui sont commises par les tenants du pouvoir, les acteurs étatique. Les gens qui ont reçu un pouvoir de l'État, mais au lieu de le faire pour l'intérêt de la population, ils le font pour leurs propres intérêts et tout en niant les droits des autres. Et là, les violations des droits de l'homme.
Imaginez-vous quelqu'un qui arrête un individu, un Congolais sur la route et on les met dans le coffre d'une voiture ou des véhicules.
Ce sont des situations anormales qu'il faut vraiment critiquer. Et ici, nous voulons par exemple féliciter Madame vice-ministre des droits humains qui a fait la tournée du pays, à travers le pays. On est allé des cachots, des prisons et on a décelé des graves violations des droits de l'homme. Ça, c'est important. Et il n'y a pas que elle, il y en a nombreux qui sont là et ça fait ce que nous appelons les bonnes pratiques. Il faut encourager tous les agents, les fonctionnaires de l'État à aller dans le respect de la loi. Ça signifie qu'on respecte aussi les droits de l'homme. Chaque fois qu'ils ne respectent pas la loi au préjudice des individus, il y a la violation des droits de l'homme. Et c'est pourquoi les agents et les fonctionnaires de l'État méritent des formations et des sensibilisations importantes pour qu'on arrive à changer le comportement et pour qu'on puisse adopter aussi des actions en faveur de la promotion de la dignité de la personne humaine. Et dans notre pays, nous venons d'une situation de guerre, d'une situation de la
post-conflit, comme on vient de dire.
Oui, la situation de la dictature pendant longtemps, ce sont des vrais problèmes qui ont fait qu'aujourd'hui, les institutions de l'État sont presque inexistantes ou ne fonctionnent pas normalement. C'est pour cette raison que même dans l'accord d'Addis Abeba, notre pays signe des engagements pour des réformes institutionnelles. C'est parce que l'État doit se reconstituer. Et si on tient compte de cette réalité, on doit aller jusqu'au bout. Par exemple, dans les FARDC et la police, il y a des éléments qui sont venus qui n'ont pas été bien formés. Il y en a qui sont bien formés, qui sont venus peut-être des groupes miliciens, mais qui composent. Et par moments, les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Là, c'est ce qu'on appelle le vetting qu'il faut faire. Il faut faire partir de ce corps ces éléments qui sont dangereux. Aujourd'hui, on se dit, par exemple, nous soutenons tout le corps de la police nationale congolaise. Mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas des tomates pourries dans ce corps? Et il y en a. Il y a des gens qui se comportent de n'importe quelle manière. Ça, il faut le critiquer. Et chaque fois qu'on condamne, chaque fois qu'on dénonce, il faut les poursuivre.
Et quelle est l'approche qu'utilisent aujourd'hui les activistes des droits de l'homme quant à ceux, donc, au fait, auprès de le plaidoyer qu'ils utilisent, hein, l'approche qu'ils utilisent pour faire des plaidoyers auprès du gouvernement, afin de pousser ces derniers à aller vers le respect des droits de l'homme?
Oui, le plaidoyer, c'est ce partenariat, parce que l'État a tout le pouvoir. Et quand les ONG parlent, quand ils dénoncent, quand ils font des rapports, il y a lieu de le mettre ensemble, de les mettre ensemble, de les rapprocher. Ça part du gouvernement. Et c'est pour cette raison qu'il faut déplorer aussi une situation, c'est que les mécanismes que nous avons ne sont pas forts, ne sont pas solides pour faire cette promotion des droits de l'homme. Nous avons par exemple ce qu'on appelle l'entité de liaison des droits de l'homme. C'est une entité qui existe et à la tête il y a le premier ministre. Et dans chaque province, c'est le gouverneur de province qui pilote cette entité de liaison. Mais qu'en est-il de la pratique sur ce
terrain?
On vous dira qu'il n'y a pas de moyens.
Les acteurs ont difficile aujourd'hui de désigner le représentant au niveau de la commission qui va gérer les droits de l'homme.
Là, je parlais de l'entité de liaison des droits de l'homme qui existe et qui devrait normalement.
Maintenant,
de l'autre côté, il y a aussi la Commission nationale des droits de l'homme. Là aussi, je crois que c'est un problème.
Tout récemment, il y a eu des désignations qui posent encore problème.
Non, ça ne pose pas de problème. Lorsque l'Assemblée nationale voudra
désigner les personnes, il pourra le faire. Parce que dans chaque groupe thématique, ils ont déjà désigné certaines personnes. Donc, aujourd'hui.
Mais ça manque à quel niveau? Parce que d'aucuns pensent que c'est vraiment une panacée. Ça pourrait résoudre, tant soit peu, cette question des droits de l'homme.
Certainement, ça va résoudre. Mais le problème, c'est du côté du pouvoir. C'est-à-dire, le président de l'Assemblée nationale, s'il décide aujourd'hui, avec les noms qu'il a déjà reçus, il peut désigner en définitive les animateurs de la CNDH. Vous voyez, ces mécanismes-là manquent. Et par moment, et même les ministères de la justice et des droits humains devraient avoir un cadre de concertation avec les ONG. Il y en avait par le passé, mais depuis un temps, eh bien, il y a un relâchement. C'est ce qui fait que les autres se disent, d'une part, bon, on ne veut pas de nous ce que nous
faisons. Mais le problème aussi, c'est l'existence de ces ONG mallettes. Qui n'existe que de nom, qui travaille le matin comme ONG, qui milite pour le respect des droits de l'homme, le soir, c'est autre chose.
Oui, ça peut être vrai, mais ce n'est pas
ça par vocation.
Mais ce n'est pas, ce n'est, il ne faut pas généraliser. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez des ONG, peut-être qu'il n'a pas un bon bureau, mais la plupart des bureaux que vous voyez avec les ONG, il y a des gens qui financent. Une ONG nationale qui n'a pas de financement de sérieux a difficile à avoir un bureau. Et il peut faire un travail très intéressant sur le terrain.
C'est qui le financement, des financements des bureaux, de ceux-là qui sont qui commettent des violations,
des droits de l'homme. C'est un peu ça le problème. Il y a là aussi le vrai problème avec les budgets. Si on a la volonté de promouvoir les droits de l'homme, on doit aussi y apporter un budget conséquent. Ce que je venais de dire par rapport à la situation de la guerre, la RDC, comme gouvernement, comme État, a besoin aujourd'hui d'un soutien. Et il ne faut pas que l'on se leurre, il ne faut pas cacher cela aux yeux de la communauté internationale. Dire que nous connaissons des violations des droits de l'homme, nous avons des problèmes des institutions, nous avons besoin aussi de vos financements pour nous aider à évoluer. Sinon, on va tourner en rond.
Arsène Etakipit, Franklin Bukavu, professeur Robert à Kinshasa. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Merci et bonne arrivée sur les ondes des Radio Capi. Selon vous, comment capitaliser les progrès réalisés dans la mise en œuvre de recommandations des partenaires, parce qu'il y en a, notre invité l'a reconnu, des prédécesseurs aussi. Voilà, et vous, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, dans cette situation, je crois que j'ai bien suivi mes prédécesseurs. Ils vont continuer à parler. Et ils diront, ils vont donner leurs avis. Mais mon avis, dans cette histoire, il faut passer par l'éducation de la personne humaine d'abord. Hier, nous avions un gouvernement qui avait donné la bonne citoyenneté, je crois, la nouvelle citoyenneté au ministère de l'Information. Aujourd'hui, cette institution est allée vers le ministère de l'Éducation nationale, je crois. Bon, ou les détails, les dénominations, ça ne m'intéresse pas. Mais l'éducation nationale. Je crois que à ce niveau-là, au niveau de l'école primaire d'abord, si la personne est bien éduquée, bien instruite, je crois que son comportement va changer, son comportement va se mettre en ordre. Donc, nous devons commencer d'abord par éduquer la population, la nation congolaise, l'éduquer et comprendre, faire comprendre à cette nation ce que c'est les droits humains. Dès que nous aurons acquis ces compétences, nous allons regarder d'un autre côté. Ceux qui sont censés de l'applicabilité des résolutions. Donc, le gouvernement en place, avec les autres institutions. Si, à partir du comportement d'un ministre ou d'un élu, il y a des manquements en ce qui concerne les droits humains, il est censé d'abord au ministre de la Justice et des droits humains de prendre cette histoire en main et de reprocher, s'il faut le faire, son collègue qui se met un peu à côté. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, le Congolais est agressé par ceux qui sont censés mettre en applicabilité les résolutions des droits humains. À la télé, nous suivons les ministres, à la télé, nous suivons les élus, mais allez-y voir leur comportement. Des fois, ils n'ont même pas le sens du respect, mais si c'est moral. Donc, de là, tout découle qu'un petit citoyen qui est à côté peut facilement prendre une machette et frapper sur son conjoint ou sur son ami. Donc, si le témoin du pouvoir ne savent pas mettre en applicabilité toutes les résolutions je ne crois pas que celui qui est à côté, qui est aussi censé s'appliquer, va respecter. Donc, je voulais m'appeler sur l'éducation nationale pour que nous puissions demain être contents des résultats. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer à donner des détails pour telle discipline, pour telle autre. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Nous n'irons pas directement vers la solution. Donc, il faut m'appeler. Je crois que le ministre qui est nommé actuellement a assez d'expérience dans le centre de l'éducation nationale. Donc, tout à lui, moi je ne peux qu'espérer en lui qu'il y a la nouvelle citoyenneté. Parce que nous devons changer. Pour changer, il faut comprendre le sens de la nouvelle citoyenneté. Si nous avons compris le sens de la nouvelle citoyenneté, je crois qu'à partir de ceux qui ont créé ce ministère-là, nous pouvons avoir des résultats. Voilà ma modeste conclusion.
Voilà, merci beaucoup, Arsène. Là, peut-être, vous avez peut-être anticipé le programme que nous avons pour faire les débats citoyens autour de l'inspiration que chacun de vous a sur la composition du gouvernement. La configuration du gouvernement actuel et quelles sont les attentes des uns et des autres et aussi en troisième degré les priorités que nous donnons à ce gouvernement sur le plan social. Voilà. Arsène, merci beaucoup. Donc c'était un sujet de débat prochainement, si pas la semaine prochaine, mais après. Franquin, vous êtes à Bukavu. Bonjour Franquin.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à notre invité.
Franquin, vous avez la parole.
J'ai très bien suivi les prédécesseurs depuis le début de l'émission et j'ai salué vraiment leurs interventions pertinentes. Parce que moi je pense que je vais juste proposer des propositions sur la capitalisation de ces avancées qui caractérisent notre gouvernement. Parce que il faut ne pas être au Congo pour rejeter les avancées qui sont faites, qui sont notées, qui sont constatées. Il y a vraiment des avancées. Mais moi je pense que au-delà de ces avancées, le gouvernement ne devrait pas répéter tous les rapports en rapport avec les violations des droits de l'homme. Il y a vraiment ce que l'on fait, mes producteurs ont dit, qui au conseil de notre police, il y a vraiment des éléments qui se comportent de très belle manière, mais il y a aussi d'autres qui sont faits comme des brebis galaises qui essaient de se comporter d'une autre manière et qui s'agissent de l'image du pays. Donc, dès qu'il y a les rapports, comme les rapports de Human Rights Watch et comme les rapports de CNIDH, le gouvernement devrait tous les rapports en bloc. Il devrait récupérer ce rapport et les écouter en bout pour essayer de dégager les conclusions, essayer de voir avec les partenaires qui l'accompagnent comment est-ce que ce rapport, les résultats des différents rapports peuvent être réorientés, peuvent être servir le gouvernement pour réorienter son action en rapport avec les droits de l'homme. Mais aussi, il faut sensibiliser la population. Vous savez, les droits de l'homme ne doivent pas être seulement attendu aux côtés du gouvernement. Il faut que la population connaisse ce que c'est ses droits et ce que c'est ses devoirs. Nous avons une population qui pense qu'elle n'a que les devoirs et n'a pas les droits. Lorsque nous avons une population qui ne connaît pas ses droits, le gouvernement peut se permettre de faire de n'importe quoi et dit que nous sommes en train de respecter les droits de l'homme. Donc, au niveau des ONG des droits de l'homme, il faut sensibiliser la population pour que cette population arrive quand même à comprendre quels sont les droits qu'elle dispose et quels sont ses devoirs. Parce qu'au Congo, nous avons comme impression, le gouvernement ne des droits à la population sans avoir les droits et sans réaliser ils profitent de cette situation parce que nous avons une population qui la majorité ne connaît pas ce que sont les droits. Voilà en fait ce que moi je voudrais souligner en plus de ce que mes prédécesseurs ont dit, je ne voulais pas revenir sur ça.
Merci beaucoup Franklin. On va prendre le professeur Robert qui est à Kinshasa. Robert, bonjour.
Bonjour monsieur Gilles.
Vous avez la parole Robert.
Merci, je salue l'invité, je salue tous les auditeurs de la Radio Capi. Je vais contribuer dans un cadre tout à fait spécifique, hein, parce que le respect des droits de l'homme, il y a beaucoup de documents à partir de la Déclaration générale des droits de l'homme, la Déclaration internationale des droits de l'homme, les constitutions de chaque pays, et même les actes constitutifs de certains partis politiques qui se réfèrent toujours au respect des droits. Mais qu'est-ce que nous voyons en pratique? Le respect des droits n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul conseil que nous pouvons donner, c'est de revenir toujours là-dessus, surtout avec, j'ai suivi un intervenant, qui a parlé de la formation. formés à partir de la base, que les enfants soient sensibilisés au respect des droits des uns et des autres. Ça, c'est une vérité. Mais ce que je constate aussi souvent au niveau de l'application des textes, lorsque quelqu'un est nommé, par exemple, il obtient une nomination comme mon cas, professeur, bon, le dossier doit suivre un cheminement jusqu'à l'informatisation et obtenir les avantages du. Vous allez constater que ce dossier va être torpillé à travers toutes les instances et plusieurs mois vont se passer jusqu'à vous mettre devant une sorte de ce que j'appelle moi la concussion. C'est-à-dire que nous ne nous respectons pas à cause de l'argent. C'est ça la vérité. Il faut forcer les mains et donner l'occasion aux gens qui ne méritent pas de bénéficier des choses indues. Voilà, c'est là que moi je trouve que nous ne nous respectons pas à cause de l'argent. Voilà la vérité. Donc, je suis d'accord que nous puissions, dans les votes du budget, prévoir un certain montant à payer aux différents fonctionnaires et aux agents de l'État. Mais souvent, ce budget, bien que voté, n'est jamais appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui torpille ça. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de nos pays souffrent encore de ces difficultés de l'autorité qui dirige, qui ne veut pas appliquer les lois et qui ne veut pas respecter les droits des autres. C'est ce que moi je constate, c'est dommage. C'est un cas spécifique que j'ai pris, même au niveau des syndicats, les différents syndicats qui existent. Ils sont appelés à défendre les droits des minorités. Mais comment ils font? Il suffit tout simplement qu'ils soient intéressés par l'employeur et ils bafouent, ils ne défendent rien. Donc, dans nos syndicats, au niveau même des ministères, on ne voit pas un effort du respect des droits des gens. Alors que les textes existent, il suffit de les appliquer. Je me rappelle encore du temps de la dictature de Mobutu. Moi, j'étais nommé un jour assistant. Mais dans les mois qui ont suivi, on m'a payé, on a informatisé mon dossier. On m'a payé avec effet rétroactif. Mais le problème ici, il n'y a jamais eu des effets rétroactifs faciles. Il faut toujours... Voilà,
merci beaucoup parce que professeur, vous avez appelé depuis l'Ulikin, vous l'avez si bien dit, vous avez pris un aspect un peu spécifique et particulier, la question un peu de ce qui est ordinaire. Merci beaucoup professeur d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué dans cette émission et nous retenons qu'il n'y a pas que le droit des minorités ou les syndicalistes se retrouvent achetés, en tout cas entre guillemets, par l'employeur, mais il y a aussi d'autres. Quand ils sont en désaccord, ces gens-là, en tout cas, ne bénéficient plus de leurs droits dans l'exercice de leurs activités. Merci beaucoup, professeur, d'avoir appelé. Mathieu, vous êtes à Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je parle au nom de l'ONG Voix plus que dirigée, la force de Katanga.
Donc, vous parlez au nom de...
En ce qui me concerne, notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas encore fait des avancées significatives en matière des droits de l'homme. Au bout de ces deux années consécutives, 2013-2014, nous continuons à enregistrer des graves violations des droits de l'homme, parce que souvent par des policiers, qui sont en train de phénomènes de conflit, ou plusieurs jeunes gens, ont été tués sauvagement, les qualifiants de Kuluna. Les manifestants sont arrêtés directement en utilisant des gaz lacrymogènes.
Oui, Mathieu, quelle est votre source d'information, Mathieu? Quelle est votre source d'information?
Oui, moi j'ai des formations ici sur place. Je déambule partout pour savoir la réalité de notre pays.
Est-ce que vous vous attendez au rapport du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ou carrément vous vous inspirez d'autres rapports des différentes ONG à travers le pays?
Oui, les ONG qui veulent des voilés sont menacés. Ça, je trouve que nous sommes là, je parlais d'un état de droit.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes une ONG. Vous êtes une ONG.
La loi qui est juge. Les opposants, oui, pardon, monsieur.
Vous avez dit que vous êtes une ONG, mais qu'est-ce que vous proposez pour que le respect des droits de l'homme soit des normes?
Je crois que les autorités doivent faire beaucoup d'efforts pour le rétablissement d'un état de droit à partir des institutions publiques que nous remarquons au Parlement. La loi de la minorité n'est pas d'être respectée. Mais c'est l'exemple que je vous donne.
Voilà, voilà. Donc pour vous, il faut travailler dans le sens de pouvoir éviter des frustrations à incriminer ou encore des soucis à charger sur la minorité. C'est ce qui fait que demain ou après-demain, même cette minorité, quand elle deviendra majorité, elle pourrait en fait revancher, ce sera un continuum d'insécurité et des violations de droits de l'homme. Merci beaucoup Mathieu. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour Michel.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, j'allais contribuer un peu. Dans la nation, nous avons les trois qui ont d'abord un caractère international et aussi les trois qui ont un caractère national. Mais les conflits que je suis en train de faire, on dirait que nous sommes en train de tout faire pour que les trois internationales puissent être bien, pour que nous puissions être bien en vie. Au niveau international. Mais nous bafouons les droits au niveau national. Vous savez, même les manger, c'est un droit. J'ai fait une étude là. Si vous allez à Moine, lorsqu'on refoule les Congolais, vous allez voir les mêmes Congolais, deux jours ou trois jours, malgré la manière dans laquelle ils sont refoulés. Ils ont toujours tendance à rentrer. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne va pas chez nous. Moi, je crois que nous devons d'abord faire tout afin que les droits dans notre pays puissent être valorisés.
Oui, Michel, si vous le permettez, nous vous gardons en ligne et nous demandons également à Kaouni, qui est à Kalemi au Katanga, de rester en ligne. Nous allons nous retrouver, donc on va poursuivre cette émission parole aux auditeurs, tout en rappelant d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui sont sur la fréquence de la paix, et ils ont le droit aussi de participer à ces débats citoyens de la parole aux auditeurs. Il faut composer les 081-890-6315 pour les appels en direct. Ils peuvent aussi déposer les commentaires sur notre page Facebook. Voilà, merci Yves encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen avec Michel qui était en ligne avant le flash d'information. Michel, vous êtes avec nous?
Oui, merci, je disais.
Alors, vous en étiez déjà aux propositions?
Oui, mais toi, l'effet, c'est faire sentir. Je crois quelqu'un qui n'a pas bénéficié de l'électricité pendant tout un mois, peut-être 12 jours seulement, et à qui l'on doit remettre la facture des pays à la fin du mois, la totalité. Je ne pense pas que vous respectez son droit. Et bon, la seule chose aussi qui me préoccupe, c'est notre justice. J'ai compris que la passivité de notre justice fait en sorte qu'aujourd'hui, Joseph Kabila puisse à 40% échouer dans sa mission. Mon frère, si vous allez dans nos institutions judiciaires, si vous y rendez, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez envie de vomir. Et vous vous dites que ceux qui travaillent là, ce sont des Congolais ou qui viennent de notre planète. Donc, ça fait mal, ça fait mal. Donc aujourd'hui, que vous ayez raison ou pas, l'argent, c'est le thermomètre pour rendre la justice dans ce pays. Et ça fait du mal. Or, c'est l'instrument qui devait faire en sorte que les droits soient appliqués.
Oui, Michel, je crois que depuis 2003 ou 2004, peut-être après 2005, disons, notre justice a subi quand même une certaine réforme. Et nous avons vu Régis Coe et tant d'autres ONG travailler dans ce sens-là. Il y a des vastes programmes pour arriver quand même à restructurer notre justice et notre service de sécurité. Je crois qu'il faut laisser quand même le temps parce que c'est un processus.
Oui.
Et les résultats arriveront un jour.
Je vous comprends, monsieur. Ce sont les textes qui sont réformés, mais pas les hommes. Nous avons besoin plus que les hommes soient réformés que les textes. C'est ce que nous voulons. Donc, les hommes soient au service de la nation. C'est qu'il doit d'abord se dire que la corruption, c'est que si la justice est la corruption, gagnant dans le monde, C'est ça qui tue la nation.
Voilà, il y a un auditeur qui a parlé tout à l'heure de la nouvelle citoyenneté qui a été, en fait, donnée, disons, attribuée maintenant à l'enseignement primaire. Vous saluez quand même de demain, comme les autres l'ont fait. C'est vrai que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, parce que nous allons y venir sur la configuration de cette composition gouvernementale. Mais dans le jeu, déjà, ça pourrait quand même, au niveau de la base de l'enseignement primaire, travailler déjà cette nouvelle génération.
C'est notre souhait. En tout cas, moi, je félicite d'abord la manière dont ce ministère a été préparé avec les ministères des médias. Parce que maintenant, je crois, avec M. Makamouan, je sais comment cet homme travaille. Et je crois que maintenant, ça sera d'application. Parce que la nouvelle citoyenneté, je crois, ce sont les règles qui vont faire en paix de l'autre pour avoir une qualité d'offre qui doivent être au service de la nation.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé de Matadi dans le Bas-Congo. Kaouni, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Oui, bonjour, Chier. Bonjour à l'invité, Monsieur Arlouan Boulois. Bonjour aussi aux auditeurs de Radio Kapi. C'est Kaouni Douba Patrick depuis la ville de Kalemie. J'aimerais juste parler de cette journée qui est déclaration universelle des droits de l'homme et qui a été déclarée en 10-12-19-48. Bon, au niveau international, nous avons des conventions internationales telles que la convention de discrimination raciale qui a été déclarée en certain 21-12-65. Nous avons aussi du novembre 1988, décembre 19. Mais je dois prendre aussi au niveau régional, au niveau africain, là où il y a la charte africaine des droits de l'homme et des peuples déclarée à Nairobi en 7 juin 1981. Là où je suis, c'est au niveau de la RDC, qui est notre niveau national. Nous avons la constitution, les codes de la famille, code pénal et code du travail. Mais moi, je dois surtout me baser sur ce que maître a déjà évoqué ou déclaré. Il y a la problématique des violations des droits de l'homme et infractions ou abus des droits de l'homme. Écoutez, hein, avec violation des droits de l'homme, là nous voyons, comme maître l'a déjà abordé, là profondément dit cela, il a parlé des agents de l'État, nous avons les agents de l'État qui font quand même des violations, qui échappent quand même aux droits de l'homme, qui maltraitent les gens, qui s'impliquent aussi dans la discrimination, des choses pareilles. Et là, nous allons aussi juger et donner quand même des mécanismes de protection. Nous avons les abus des droits humains. Il y avait des abus des droits humains, nous trouvons aussi, par exemple, les groupes des gens qui sont en train de torturer, de connaître des discriminations à l'Est, au niveau de l'air des faits. Mais avec des mécanismes dans notre pays, hein, avec des mécanismes, nous prenons quand même dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les institutions et organismes publics. Là, dans l'institution et organismes publics, nous avons le Parlement. Nous avons le ministère des droits humains, nous avons la police, cours et tribunaux, ONGDO, nous avons associations religieuses, nous avons vraiment, nous en avons marre. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Alors, nous allons, c'est à notre pays, de se pousser quand même avec ces mécanismes de protection pour s'approfondir de plus et surtout de s'acquitter à ce qu'on appelle violation des droits de l'homme et abus des droits de l'homme.
Merci beaucoup. Kaouni, merci. Oui. Merci beaucoup. On va prendre
mon nom. Non, c'est pas. Je dois aussi terminer avec une citation qui dit ceci. Paix de force, quand même, on pourrait surtout se m'appeler davantage. Merci, je vous remercie, J.R.
Je vous en prie, Kaouni. Maurice, vous êtes à Kinshasa et on va terminer avec Maître Adrien qui est à Kananga. Maurice, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo. Je commence par regretter d'abord que depuis le début de l'émission, je n'ai pas entendu un seul intervenant, ni même votre invité, faire allusion d'abord au héros puissant dans ce pays, à la personne de Floribert Chebeya, qui a payé de sa vie pour les intérêts des autres, qui doit être quand même honoré en ces jours, même cette émission lui serait quand même dédiée. Hein, parce que, vous voyez, il a lutté pour les droits de l'homme, plus que même ceux qu'on honore aujourd'hui comme héros national dans ce pays. Et je ne vais même pas citer les noms ici pour éviter certaines polémiques à l'antenne. Alors, je rends hommage à Floribert Chebeya et à son chauffeur Fidèle Bazana. Et je voudrais dire ceci. Les droits de l'homme ici, les violations des droits de l'homme,
Si vous suivez, vous lisez certaines statistiques, des rapports crédibles de certaines organisations, crédibles aussi des droits de l'homme qui militent dans ce pays, vous verrez que ces statistiques placent en tête l'État congolais à travers sa police sans éthique et son armée. Alors,
non, mais Maurice, oui, Maurice, nous devons quand même avoir le respect quand même de ceux-là qui, quand même, qui assurent la protection des personnes et de leurs biens. Quand vous parlez des sans éthique, bon, en tout cas, moi, je ne sais pas, j'ai réagi tout de suite et puis je crois que je vous demanderai de retirer cela par respect à notre police.
Oui,
qui va permettre à l'habitant et qui a amorcé quand même cette phase de réforme. Oui.
Je voudrais dire ceci, que la violation des droits de l'homme dans ce pays, c'est un modèle de gouvernement, de gouvernance, je dirais. Alors, quand j'entends notre invité parler de la Commission nationale des droits de l'homme qui doit être mise en place, je ne sais pas c'est pour quelle fin. Hein? Nous savons bien que c'est l'État congolais placé en tête, sa police par son armée, placé en tête de violation des droits de l'homme. Et vous attendez de cet État de mettre en place une commission, inféodée à sa volonté. Vous allez vous attendre à quoi exactement? Vraiment, c'est une vaste comédie. Moi, j'estime que ces gens ici, ce gouvernement a montré de quoi il est capable. Lorsque vous voyez l'expulsion des gens comme de Scott Campbell, lorsque vous voyez des gens comme de comment on appelle, Bosco Ntaganda, qui a été demandé par la justice internationale, et depuis très longtemps, protégé par ce gouvernement. Vous pensez qu'en mettant une commission nationale des droits de l'homme, c'est pour quelle fin? C'est pour faire quoi? Moi, je pense qu'on doit arrêter à blaguer avec ce pays, à jouer je ne sais à quoi.
Voilà, alors vous proposez quoi? Vous proposez quoi, Maurice? Pour qu'on arrive réellement à l'occasion de cette célébration de droits de l'homme, arriver, comme le terme le dit, droits de l'homme, 365 jours sur 365.
L'impunité d'abord est à la base de tout ce que nous décrivons ici. Et cette impunité, c'est un modèle de gouvernance dans le pays. Et comme je crois Michel Dematade le disait dans une
émission,
les solutions, les Congolais cherchent les Congolais, les pitons ont l'habitude de chercher les solutions ailleurs. Je ne sais pas si c'est par peur ou par quoi. Ceux qui sont là, ceux qui protègent, ils sont là. Ce sont ces gens-là qui doivent partir de libérer ce pays. C'est ça la solution.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé. Maître Adrien, vous avez la parole. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. Je pense, JR, j'ai très bien suivi la thématique du jour. C'est comme je l'ai dit dans mon speech d'entrée de jeu, pour vous dire que je n'ai pas quelquement des propositions. Il faut lutter contre l'impunité. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a certains rapports qui dénoncent presque à l'appui la violation grave des droits de l'homme. Mais au lieu qu'on puisse poursuivre ces gens-là en justice, pour que la justice puisse se rendre compte qu'ils sont coupables ou pas, mais qu'est-ce que nous entendons des défenses? Il y a certaines personnes qui viennent pour défendre ceux-là, à tort ou à raison, qui auraient violé les droits de l'homme. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut que le gouvernement mette la justice dans de très bonnes conditions pour poursuivre tous ces gens-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des actes qui sont dénoncés. Il y a des actes qui sont portés devant la justice. Mais seulement que nos amis qui disent la loi sont dans des situations compliquées.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Adrien. Merci beaucoup, Maître Adrien. On va juste accorder. On va accorder juste la parole à notre invité, Maître Henri. Juste une phrase pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour orienter les préoccupations des uns et des autres?
Oui, pour les uns et les autres, nous croyons qu'avec cette grande journée des droits de l'homme, 365 jours sur 365 pour l'année qui commence, le gouvernement a à sa part une grande responsabilité pour promouvoir les droits de l'homme et tous les citoyens, les ONG et la société civile a aussi un rôle très important et les deux doivent conjuguer les efforts parce qu'il y a des problèmes des réformes institutionnelles, il faut que ces réformes puissent aboutir. Il faudrait un budget conséquent à cet effet. Déjà, la société civile commence à participer dans ce processus, n'est-ce pas, de budget, c'est déjà important et nous voulons que l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que le président de la République, le gouvernement comprennent que ils ont une politique, ils ont des priorités, mais la population aussi a ses priorités à travers ce budget. C'est ce qui permet à cette population de se retrouver et de dire que nous participons et nous bénéficions de richesses nationales. Et là, nous avons aussi des questions sur l'impunité, les immunités dont on parle, et la corruption, et la nécessité de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Voilà ce qui peut nous permettre d'évoluer. La démocratie aussi, avec la décentralisation, c'est le cadre normal qui permet à ce qu'il y ait éclosion des droits de l'homme. Tous les droits de l'homme à la portée de tous, c'est vraiment notre souhait.
Maître Henri Ouimboloa, vous êtes responsable des activités de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous disons également merci à Hélène Cécilia Kala, Julie César Bongonda, Thierry et la Mégie qui ont concouru à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.